Chaque semaine sur Radio Présence, les écrivains présentent leurs derniers ouvrages et se confient au micro de Monique Fauché. Parole d'auteur.
L'heure mariale, l'enseignement.
Comment accepter de porter sa croix ? À Lourdes, nombreuses sont les personnes qui portent leur croix sans l'avoir demandé. Monseigneur Pierre-Marie Carré, du diocèse de Montpellier, au cours d'un pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance, nous donne quelques pistes pour avoir la capacité de suivre le Christ comme il nous l'a demandé. Prends ta croix et suis-moi.
Le passage d'évangile que nous venons d'entendre à l'instant arrive juste après le moment où l'apôtre Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu, celui qui est attendu, espéré par tous, en un mot, le Sauveur du monde. Et c'est précisément à Pierre, qui vient de le reconnaître de cette manière-là, que Jésus se met à dire « Je te propose ce qu'il y a de meilleur. Suis-moi, renonce à toi-même, prends ta croix. » Voilà un chemin qui, certes, n'a rien de facile, mais c'est une route qui donne une liberté étonnante. C'est un chemin dont beaucoup ne se doutent pas. Revenons un instant sur ces trois expressions de Jésus que les panneaux que nous avons lus à l'instant nous aident aussi à mieux saisir. Renoncer à soi-même. Il faut bien le dire, croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est accepter qu'il entre dans nos vies. C'est accepter qu'il nous propose d'autres centres d'intérêt que les nôtres. Et cela, nous le percevons bien quand nous avons des choix importants à faire. C'est vrai, à certains moments de notre vie, pour être fidèle au Christ, il nous faut savoir refuser d'autres possibilités. Il nous faut refuser de voler, de tricher, d'être injuste, de ne chercher que ses propres intérêts. En un mot, renoncer à soi-même, c'est-à-dire devenir attentif aux autres, s'oublier soi-même avec ses soucis, avec son mal, avec ses angoisses, pour se tourner vers les autres, chercher à servir les autres, à les aider, à donner à eux la priorité sur soi. Bien entendu, nous le savons, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Renoncer à soi-même. Jésus ajoute « prendre sa croix ». Comprenons bien aussi cette phrase de Jésus. Il ne s'agit pas de chercher d'abord ce qui fait du mal. Il s'agit d'accueillir ce qui pèse dans nos vies, ce qui s'impose à nous. Pour les uns, ce sera une souffrance physique avec le poids de la maladie qui ronge. Pour d'autres, ou bien à d'autres moments, ce sera surtout le mal moral, le découragement, le sentiment de n'être utile à rien ou à personne. À d'autres ou à d'autres moments encore, ce sera l'entourage. L'entourage qui ne sait pas trouver la bonne attitude. Et puis parfois, c'est tout cela ensemble et la croix devient vraiment écrasante. Prendre sa croix, c'est regarder sa vie avec le regard du Christ. C'est la recevoir humblement avec tendresse. C'est demander à Jésus qui est tombé sous le poids de la croix d'avoir la force de la porter aujourd'hui. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, suivre le Christ, c'est le but final. Nous le savons, Jésus lui-même a suivi ce chemin. Il a mis son corps sur la croix pour donner sa vie en fidélité à son Père et aux autres. Comme saint Paul le disait à l'instant, il s'est abaissé jusqu'à cette mort infâme. Ce chemin, c'est aussi le nôtre qui voulons suivre le Christ. Il faut bien le reconnaître, frères et sœurs, ce chemin est dur. Ces paroles du Seigneur sont rudes. Elles viennent heurter ce qui est en nous le plus profond, le désir de vivre. Mais n'oublions pas ce qui vient après et qui donne tout son sens à ce chemin. Jésus invite à le suivre vraiment parce que c'est avec lui que l'on peut vraiment sauver sa vie. Et saint Paul, nous l'avons entendu, le dit avec d'autres mots. Dieu ressuscite son Fils mort sur la croix. Il le fait entrer dans la gloire du ciel. Et voilà notre espérance. Jésus nous rejoint dans notre propre chemin de croix. Jésus s'unit à nous, non pas du dehors, mais de l'intérieur. Voir la croix de Jésus, faire sur nous, sur notre corps malade, le signe de la croix, porter la croix, c'est affirmer que le Christ Jésus accueille toute notre existence telle qu'elle est, avec son poids d'amertume, mais aussi avec la présence qui rend capable de sourire, de garder l'espérance plus forte que tout. Finalement, ce que Jésus nous donne à travers sa vie, à travers ses mots de l'Évangile, c'est, si nous le voulons, de devenir compagnon de la croix. Une réalité qui fait mal, c'est vrai, mais une réalité illuminé par l'amour et l'espérance. Compagnons de la croix, nous percevons dans ce pèlerinage ce que cela veut dire. Cela nous dépasse, mais c'est l'action permanente du Christ qui sans cesse agit en nous, qui nous renouvelle de l'intérieur, qui fait briller une flamme que rien ne peut éteindre. Redisons notre oui au Christ qui a pris le premier ce chemin et nous appelle à le suivre en compagnon de la croix. Amen.
Présence dans la Haute Ariège 92.7.
L'heure mariale, la merveille de Lourdes.
Nous sommes en 1940. Une voiture quitte le Vatican dans un crissement de pneus humides en cette nuit moite du mois de juin. À l'intérieur, le cardinal Auguste Lont, primat de Pologne et régent de l'État polonais depuis la fuite du gouvernement, a les mâchoires crispées. Il détourne les yeux d'une fenêtre étroite du palais par laquelle le souverain pontife, pâle figure lointaine, est apparu pour exprimer un adieu discret. Le primat aurait voulu rester avec ses compatriotes au pire moment, celui où la Pologne est occupée par l'ennemi, mais il n'a pas pu se résoudre à composer avec les Allemands. Jamais il ne pourra accepter les compromissions qu'ils exigent. Consentir à traiter avec eux eût été le premier pas vers la soumission. Sa tête a donc été mise à prix par les lieutenants d'Adolf Hitler et il a préféré quitter la Pologne pour rejoindre le Saint-Siège. Inlassablement alors, il a sensibilisé Pie XII au douloureux sort du peuple polonais. Et le pape s'est peu à peu ouvert à la vie de ce cardinal, réputé pour son dévouement et la justesse de ses prises de position politiques. Malheureusement, Mussolini a brusquement montré les premiers signes d'un ralliement à Hitler. Inquiet de ne plus pouvoir protéger le primat, Pie XII a organisé son départ pour Lourdes. Là-bas, en zone française libre, il serait à l'abri des Allemands dans la douceur d'un paisible sanctuaire. Tassé à l'arrière de la voiture, entre le chapelain et le secrétaire qui l'accompagne, le cardinal scrute chaque recoin des rues qu'il traverse, comme si son regard pouvait dissoudre les éventuels délateurs. Il est résigné à s'enfuir plutôt qu'à risquer d'être manipulé par les geôliers de son peuple. De temps à autre, il retient sa respiration, comme pour ne pas s'ajouter au bruit du moteur. Chaque contrôle, chaque bruit de camionnette le fait tressaillir. Le jour est déjà très avancé lorsque, épuisé, les hommes aperçoivent enfin les hauteurs prometteuses des Pyrénées. Sans heurts, ils arrivent à Lourdes et sont conduits jusqu'au chalet épiscopal. Caché au détour d'une route, en partie dissimulée par de grands arbres, la demeure est bordée d'un jardin spacieux. Le cardinal s'abandonne enfin à un certain relâchement. Il éprouve toujours un bien-être particulier à s'établir simplement au milieu de la nature. Le vaste cirque des montagnes, ses pâturages verdoyants, la cordialité de son hôte, Monseigneur Choquet, tout le rend à une sérénité inattendue. Le cardinal Long s'installe paisiblement dans le chalet et accepte ses nouvelles conditions de vie sans présumer de la durée de son séjour à Lourdes. Son mode de vie est rythmé par ses lectures, les messes qu'il célèbre dans la petite chapelle au premier étage de la maison et les longues conversations philosophiques qu'il entretient avec l'évêque et les deux abbés qui l'accompagnent. De jeunes religieuses veillent sur la petite communauté secrète. Le chapelain et le secrétaire du cardinal s'autorisent cependant à apparaître en public. Ils arpentent les rues de Lourdes, y côtoient les pèlerins et les hommes d'église. Ils vont souvent jusqu'à la grotte pour rendre grâce à la Vierge de cette liberté inespérée. Le primat de Pologne, lui, se considère comme un prisonnier volontaire et endure avec détermination son enfermement. Son activité physique se réduit à une seule promenade par jour dans le jardin du chalet, loin de tout endroit trop exposé. Tolérant cette furtive escapade, Mgr Choquet rappelle régulièrement sa principale consigne « Tenez les portes fermées, de peur que l'on finisse par apercevoir l'auguste silhouette et soupçonner l'exil du primat ». Mais le cardinal Long n'est pas de nature à se laisser éteindre. Protégé par la bienveillance et la discrétion de ses hôtes, sa fibre patriotique vibre intensément à Lourdes. Depuis sa résidence forcée, il met tout en œuvre pour apporter un soutien matériel et spirituel aux communautés polonaises. Les Polonais de France s'appuient sur sa détermination pour adoucir leur exil. Ils retrouvent avec lui l'authenticité de leur foi et le berceau de leur culture. Malgré sa prudence, l'activité intellectuelle du primat résonne bien au-delà du silence du chalet épiscopal. Il entretient de nombreuses relations en France et à l'étranger grâce à une correspondance fournie. Il élabore en secret des plans stratégiques destinés à affranchir la Pologne du joug germanique. Enfin, il rédige une revue clandestine qui circule dans la ville de Toulouse. Son cœur et son esprit demeurent tendus vers le destin de son pays. À la fin de l'année 1942, les Allemands envahissent la zone libre. La résidence du primat de Pologne se trouve dès lors exposée aux perquisitions allemandes. Sa sécurité est menacée. Il décide donc de quitter le petit chalet Lové au pied des Pyrénées, où il a séjourné près de 3 ans, pour se réfugier en avril 1943 dans le couvent bénédictin de Hautecombe. Mais son anonymat y est trahi et il est arrêté un peu moins d'un an plus tard, puis conduit à Paris. Les Allemands tentent en vain de le pousser à coopérer. Fidèle à sa Pologne natale, le cardinal ne transige pas et il le paie de sa liberté. Ce n'est qu'en 1945 qu'il retrouve son pays mutilé par la guerre et son peuple plongé dans un dénuement total. Jusqu'à la fin de sa vie, le primat se consacre à apaiser la détresse de ses concitoyens.
Présence.
Oh!
Provence.
Histoire de Lourdes, un rendez-vous proposé par Olivier Robert.
Un couple avance, bras dessus, bras dessous, vers la porte Saint-Joseph du sanctuaire. Je regarde cet homme et cette femme que je trouve rayonnant d'amour. En franchissant l'entrée, la femme lève une main vers son front pour faire un signe de croix. Un très beau signe de croix. Le geste de cette pèlerine vient me rappeler que l'histoire des apparitions de Lourdes s'est ouverte par un signe de croix. Celui que Bernadette a fait en imitation de celui que Marie traçait elle-même. Les théologiens l'ont bien dit, par ce signe de croix planté le 11 février 1858 dans le décor de la grotte, Marie a manifesté à Bernadette et à chacun de nous qu'elle ne venait pas pour elle-même, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est ainsi apparue pour nous faire revenir à Dieu de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que Lourdes, c'était ça, un rapprochement du ciel. Actes des Apôtres, 17-27. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous.
Ce récit est extrait du livre « Lourdes, ambassade du ciel » de Laurent Jarnot aux éditions du Toucan.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Découvrez le monde à contre-courant. Embarquez pour une balade radiophonique et partagez le quotidien d'hommes et de femmes à qui l'on donne peu souvent la parole.
Contre-courant. Offrez-vous des horizons insoupçonnés ou inconnus le mardi à 11h05 et le dimanche 18h30.